Il y eut un temps où même les animaux savaient établir la différence entre l'envers et l'endroit du décor. Quinzaine de livres, Antoine Velodine, et on peut dire que vous vivez retranché derrière un label que vous appelez le post-exotisme. Comment pourrait-on définir le post-exotisme ?
On pourrait d'abord dire que ce n'est pas un courant, que ce n'est pas une école. C'est un terme pratique pour définir ce que je fais qui se trouve à l'extérieur des courants habituels de la littérature contemporaine. Disons que c'est un ensemble de voix, de récits, de romans, un ensemble de poétiques romanesques qui vient d'ailleurs, qui va vers l'ailleurs et qui, cependant, en permanence établit avec le lecteur et les voix narratives établit une relation avec notre histoire réelle, notre histoire du XXe siècle et l'histoire contemporaine du XXIe siècle maintenant.
Vous dites que ces livres viennent d'ailleurs et nous parlent d'ailleurs également, et les quatre premiers ont été publiés d'ailleurs chez De Noël dans une collection de science-fiction.
Oui, dans une collection qui s'appelait Présence du futur, qui accueillait des textes de science-fiction, mais également des textes à orientation fantastique ou inclassable. Et je ne rejette pas la qualité d'imaginaire qui fait la science-fiction, mais je ne me rattache pas, même pour ces quatre premiers romans publiés, à un courant de science-fiction. Je pense que c'est plus un courant d'une littérature de l'imaginaire qui se définit par elle-même et qui au fil des années, s'est auto-définie en s'appelant la littérature post-exotique.
D'ailleurs, les quatre premiers titres ont été regroupés en un volume chez De Noël en 2003. Biographie comparée de Joriane Morgrave, Un navire de nulle part, Rituel du mépris et Des enfers fabuleux. Et ensuite, peut-être pour échapper à cette ambiguïté dont vous parlez, vous avez fait un passage chez un autre éditeur, les éditions de Minuit. Là aussi, peut-être que d'autres ambiguïtés surgissent quand on publie dans ce prestigieux catalogue des éditions de Minuit. Pour vous, c'était Lisbonne, dernière marge, et le port intérieur, en 1996.
Et d'autres titres, Alto Solo, et Le nom des singes. Et bien sûr, oui, je suis passé d'un éditeur à l'autre, mais c'est là où je reprends cette étiquette d'inclassable, d'outsider, dans la mesure où, en passant de, entre guillemets, la science-fiction à, entre guillemets, la littérature d'avant-garde, de recherche des éditions de Minuit.
Minimaliste.
En fait, je n'ai pas changé, minimaliste. Je n'ai absolument pas changé, ma manière d'écrire. Évidemment, j'ai évolué au fil des années, mais je n'ai pas changé mon orientation romanesque ni mon style fondamental.
Il y a eu un passage peut-être plus neutre chez Gallimard, après, avec justement l'essai que vous avez consacré au post-exotisme, le post-exotisme en 10 leçons, Leçon 11. Les 10 premières étant incluses sans doute dans les livres eux-mêmes.
Oui, c'est cela. C'est pas si neutre que ça, ce passage aux éditions Gallimard, dans la mesure où j'ai pu donner au public des formes particulières au post-exotisme, j'ai pu donner des livres, comme d'ailleurs ce que vous appelez essai, mais qui n'est pas un essai, qui est un faux essai, qui est une œuvre romanesque, post-exotisme en 10 leçons, mais j'ai fait paraître en même temps quelque chose qui était sous-titré romance avec un petit rond sur le A et qui s'appelait Vue sur l'ossuaire et qui donne un exemple de forme littéraire venue d'ailleurs et s'adressant à l'ailleurs.
Mmh. Il faut être toujours attentif d'ailleurs aux sous-titres que vous donnez à vos livres. Qui exprime aussi un refus des genres traditionnels.
C'est pas tellement un refus. Alors, ces sous-titres dont vous parlez, c'est, par exemple, pour Des anges mineurs, aux éditions du Seuil, Nara, comme forme, comme genre, ou Nos animaux préférés,
Entrevoûtes.
Alors j'explique cela dans le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11. Il ne s'agit pas de protester contre les formes romanesques traditionnelles. Il s'agit pas il s'agit d'affirmer dès le sous-titre, avec le titre déjà, mais dès le sous-titre une singularité, une mise à l'écart des courants romanesques officiels, dans la mesure où derrière cette œuvre romanesque en 15 volumes pour l'instant, il y a une autre fiction qui se crée livre après livre, qui est affirmée, qui est décrite, qui est suggérée et qui est celle consistant à mettre en évidence derrière chaque livre des voix de narrateurs, des voix qui disent les livres, qui fabriquent de façon communautaire des livres, plusieurs voix qui sont des voix incarcérées, des voix de prisonniers, des voix qui sont marquées par l'échec des luttes passées, marquées par l'enfermement, et qui vont échanger entre elles des textes pour fabriquer des morceaux de livres qui deviennent des livres publiables et publiés. Mais cette origine des voix donne dès le départ des particularités de construction qui font que ce ne sont pas des romans habituels. Voilà, il y a dans cette création à l'origine, fragment par fragment de livres qui aboutissent à un livre publiable, il y a une affirmation de singularité qui doit apparaître dès le genre, dès l'affirmation du genre. Ce sont des romans, ça appartient au genre romanesque, mais les conditions dans lesquelles ces œuvres ont été façonnées, créées, font que ce sont des romans post-exotiques, donc avec des appellations qui affirment leur singularité. Mmh.
Depuis Des anges mineurs que vous citiez, Antoine Volodine, vos livres paraissent au Seuil dans la collection Fiction et compagnie, qui semblait faite pour vous attendre finalement.
Oui, c'est une collection prestigieuse qui accueille, où je me sens très très à mon aise, bien entendu, pour publier des œuvres post-exotiques. Thank you.
Claudine est donc publié dans cette collection Fiction et compagnie. Il s'intitule Nos animaux préférés et, vous le disiez, il est sous-titré Entre voûtes au pluriel. Je me demande s'il ne faut pas commencer par la fin d'ailleurs, c'est-à-dire par la table des matières pour avoir une idée de cheminement de la lecture, puisque le titre de la première partie, c'est un livre qui se divise en plusieurs parties, et celui de la dernière sont les mêmes, ce qui indique peut-être qu'il s'agit d'un cercle.
D'un cercle, non, mais d'une pyramide. Oui, je pense que depuis longtemps, j'ai fabriqué les livres comme on fabrique, comme on sculpte un objet, comme on fabrique un objet à partir d'éléments qui se répondent et qui ont les mêmes masses physiquement parlant. Ce sont des masses de textes qui s'équilibrent. Et entre voûtes fait allusion à une formation, à une architecture particulière, et c'est peut-être pour affirmer le fait que le roman, que le livre ne va pas être façonné comme un livre traditionnel ou conventionnel, mais comme un objet d'art, d'art textuel. Et dans cette fabrication d'objets d'art textuel, il est nécessaire d'avoir des règles d'équilibre, des règles que je peux appeler, que j'appellerais fondamentalement musicales, plus que géométriques. Mais en même temps, lorsque je parle de mes livres et de la construction de mes livres, je me rends compte que je fais des gestes qui correspondent à quelque chose qui dans l'espace serait un peu équilibré comme une pyramide, une structure pyramidale, avec en son sommet un texte qui est le texte central. J'ai construit comme cela des anges mineurs qui étaient très entrevoutiens à ce niveau-là, avec des textes en écho, le dernier texte répondant au premier texte, l'avant-dernier répondant au deuxième, etc. Et on a ce principe d'équilibre, d'équilibre musical et architectural dans la construction narrative.
Mais est-ce que le dessin est préalable?
Non, il se trouve que il y a des règles de construction qui sont des règles d'équilibre à l'intérieur même de ce recueil d'entrevoûtes qui s'appelle Nos animaux préférés. Il y a d'autres formes que j'ai illustrées depuis une quinzaine d'années, qui sont les chagas, qui correspondent à une construction également très avec un souci d'harmonie, de musicalité, et même graphiquement, les masses de textes s'équilibrent. Ce sont sept masses de textes absolument équilibrées, semblables l'une à l'autre, et il s'agit là de techniques de fabrication qui correspondent à une forme définitive qui est définie à l'avance, certes, qui est une contrainte, mais il s'agit d'un cadre technique simplement, et pas du tout l'objectif n'est pas de faire preuve de virtuosité ou d'acrobatie avec les textes. L'objectif est de faire passer des histoires et pour l'ensemble du livre, de fabriquer, je le redis donc, de fabriquer un objet d'art textuel.
Pourquoi le chiffre 7 ici?
Alors, ce chiffre 7, je l'utilise depuis toujours, depuis que j'écris. Il me semble que c'est un chiffre naturel qui vient naturellement dans une construction. Dans une construction qui a un certain souffle, une certaine place dans l'espace, c'est un chiffre qui permet d'équilibrer justement un objet, parce que si l'on considère que le centre c'est le texte du milieu, on a de part et d'autre de ce centre textuel la même masse de texte. Alors ça paraît très très abstrait et très très technique. En fait, c'est pas du tout je me sers de cela, de ce chiffre 7, de ce projet d'équilibre comme d'un instrument au service d'autre chose. C'est pas le quand vous disiez est-ce que c'est quelque chose qui est établi à l'avance? C'est un cadre mort que cette structure, et je l'habille avec quelque chose de vivant. Ce n'est pas la structure en soi qui m'importe. Mm. C'est une aide au surgissement des textes, au surgissement des images, à la construction poétique, mais ce n'est pas un but en soi.
Et le cadre est quand même fixé à l'avance pour déterminer la nature des textes que vous allez écrire. Ah, si on reprend la table des matières, la première partie s'intitule Wang, la deuxième Balbutia, la troisième Chaga des sept reines sirènes, la quatrième Balbutia, la cinquième Chaga du ciel péniblement infini, la sixième Balbutia. Et la septième, Wang. Donc on voit bien que le rythme est donné à l'avance par l'intitulé des différentes parties qui vont composer les histoires.
Je ne sais pas s'il est donné à l'avance, puisque vous lisez la table des matières qui se situe à la fin du livre.
Oui, mais ce que vous avez dit avant laisse supposer tout de même que la construction n'est pas née à la fin.
La construction vient de voies différentes. Il y a des voies différentes qui ont fait circuler des textes. Il y a toujours derrière les livres cette idée de fiction, bien sûr, que les voix surgissent depuis une communauté d'écrivains, une communauté de voix qui existe dans la solitude, dans la perpétuité, dans l'enfermement. Et c'est à partir de cette circulation de textes qui sont des fragments, qui se regroupent peu à peu, qui se façonnent peu à peu collectivement, que un livre se fabrique finalement, que naît un livre. Et l'emboîtement final se fait à partir de textes qui ont déjà existé, qui ont déjà leur histoire, qui ont déjà été répétés plusieurs fois de cellule en cellule, sous les portes, murmurés. Et finalement, le geste final de c'est quelque chose qui se fait, disons, dans le cadre d'une tradition littéraire post-exotique, avec ses contraintes architecturales, son nombre 7, mais qui fabrique cette tradition permet de mettre ensemble des fragments préexistants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il n'y a pas au départ l'objet final, l'objet nos animaux préférés, le recueil d'entrevoûtes, n'est pas pensé avant l'écriture des textes et la répétition des textes. Les textes existent d'abord, et ensuite ils sont utilisés comme matériaux pour fabriquer quelque chose de joli.
Mmh. Voilà. Donc fabriquer, c'est-à-dire mettre ensemble
des
des histoires qui nous appartiennent à tous, puisque il y a ce pluriel du titre, nos animaux préférés sont des animaux que nous partageons, vous et moi.
L'idée toujours est de prendre la parole non pas en tant que soi, en tant que narrateur omniscient ou écrivain sous les spots. C'est prendre la parole dans le cadre du post-exotisme, c'est donner la parole à cette communauté de voix. Cette communauté de voix existe dans un monde clos, qui est celui de la prison, de l'enfermement, ou de l'asile, ou du camp. Elle existe dans un monde clos. Le « nous » a cette valeur forte. Nos animaux, c'est ceux de notre imaginaire, à nous, voix, post-exotique, en train de créer notre univers, de dire notre univers. Mais depuis toujours, la présence d'un auditeur, d'une auditrice, bien sûr au pluriel, est imaginée par ces voix. Et par conséquent, ce nous va au-delà de la communauté des écrivains, des prisonniers, et va à l'extérieur des murs. L'auditrice, le lecteur, la lectrice qui sont imaginés par ces voix narratives et ces voix de narrateurs sont des créatures qui ne sont pas pensées comme neutres. Ce sont soit des amis, des créatures sympathisantes, des auditeurs, auditrices sympathisants, soit des ennemis qui écoutent pour essayer de décrypter des secrets, pour avoir des informations sur les prisonniers. Il y a cette paranoïa permanente derrière le discours narratif, le discours romanesque. Et par conséquent, le « nous » va bien au-delà de la communauté des écrivains. Elle touche « nous créateurs », nous, auditeurs et créateurs, ennemis et amis.
Et les personnages, ce sont des animaux qu'on rencontre souvent dans les contes, dans les légendes, dans les fables, surtout lorsqu'ils parlent.
Oui, ce sont des animaux parlants. Là, dans ce livre, l'imaginaire qui est regroupé met évidemment au premier plan des animaux parlants, des animaux fantastiques pour la plupart. En même temps, disons que je ne romps pas tellement avec la tradition des livres précédents et des 15 livres précédents, parce que finalement, je me suis toujours efforcé, en définissant les personnages, de gommer la différence entre souvent le vivant et le mort, mais également entre l'humain et l'animal. Très souvent, mes personnages sont à cette frontière d'indéfinitude qui leur permet d'avoir une pensée souvent ambiguë qui n'est pas totalement humaine, qui permet d'avoir un regard particulier sur l'action, sur le monde, sur le destin, sur le statut de l'humain, justement. Alors finalement, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure, le premier titre que vous avez cité, c'était la biographie comparée de Jorian Murgrave. Jorian Murgrave est dans ce livre de référence, le premier livre, est une créature qui vit dans les rêves et qui se déplace de rêve en rêve, mais c'est une créature, ses caractères humains se résument, si on peut dire, à son destin de douleur, de peur et de violence et à sa parole. Mais pour ce qui concerne le physique, on est dans souvent quelque chose d'assez indéfini. Finalement, on ne sait pas tellement combien Jorian Murgrave a de pattes, alors qu'il est un héros à la pensée humaine. Alors on se retrouve un petit peu dans ce cas de figure avec le roi balbutiard dans nos animaux préférés, oui. qui est sur son rivage et dont un dessinateur serait bien en peine de faire un portrait avec facilité.
Ça serait peut-être plus facile avec Wong, qui est un éléphant.
Wong est un éléphant, c'est le dernier des éléphants qui va dans la forêt, qui parcourt le monde et qui est un éléphant massif, intelligent, parlant et solitaire.
C'est vrai qu'à côté d'un
comme
éléphant,
tout le monde.
Tout homme paraît minuscule.
La question de la taille, la question du poids, c'est pas tellement là-dessus que je fais porter mon attention.
Il y a tout de même une petite femme.
Il y a une petite femme. Alors
très en colère.
Ce Wong parcourt la planète dévastée et rencontre une des dernières représentantes de l'espèce humaine, une petite femme qui n'a jamais vu d'éléphant, qui n'a jamais vu de mâle. Qui ne sait rien de sa propre féminité, qui ne sait rien de sa propre sexualité, et qui s'interroge et interroge immédiatement Wong pour savoir s'il pourrait lui faire un enfant, puisque là on est dans un monde assez éloigné des fables animalières. La réflexion qui est porteuse n'est pas une réflexion du tout moraliste, mais c'est une libre imagination. C'est un monde fantastique.
Oui, le monde est un village où règne la désolation et la mort.
Finalement, pas tellement, parce que la végétation continue à exister très bien. Il y a des araignées, il y a tout un tas de choses qui bougent. Donc finalement, c'est pas la mort et la désolation. Mais il est vrai que, en ce qui concerne l'espèce humaine, ça va mal. Ça va mal, et c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps et que je traite. Dans des textes qui sont pas forcément publiés et que j'ai traité dans des anges mineurs, c'est une réflexion sur la fin d'espèce humaine. Là, évidemment, on va voir beaucoup plus d'animaux que d'humains, mais en même temps, la réflexion qui est menée, c'est la réflexion sur la fin, fin historique, fin politique, mais également sur la fin de l'espèce. Moi, ça m'intéresse énormément, ça, c'est cette réflexion sur l'extinction de l'espèce.
C'est la proximité de la fin qui fait que le roi balbutiard se réveille de très mauvaise humeur.
Balbutiard, c'est un roi absolument solitaire, c'est un peu comme Wong. Wong qui veut dire roi d'ailleurs en chinois. Balbutiard ne règne que sur lui-même. Ses sujets sont des sujets imaginaires. Tout est imaginé.
Et lui aussi a abordé une ère de désolation, comme celle dont on parlait tout à l'heure à propos du village de Wong.
Oui, alors tout à fait désolé, puisque non seulement il est dans la solitude la plus totale, mais il se retrouve paralysé et attaché au rivage, en face de l'infini, en face de l'océan, infini, très beau, en face de l'univers, mais il ne peut pas bouger, il n'a aucun avenir, il sait qu'il va crever.
Il a l'impression même qu'il est dans un mauvais rêve.
Il est dans un mauvais rêve. Alors, pour sortir de cette situation, qui le met évidemment de très mauvaise humeur. Il y a plusieurs solutions qui sont traitées dans les chapitres divers qui s'appellent Balbutiards, dans ce petit livre.
Qui se fourrent tous dans de drôles de rêves.
Alors, il y a d'une part essayer de s'échapper dans un rêve, essayer de créer un autre monde que l'on pourra habiter, où on ne sera plus seul, où on ne sera plus attaché en face de l'infini et impuissant en face de l'océan. Et puis il y a également cette possibilité de pondre, de se créer une descendance, mais en concevant la descendance uniquement dans l'objectif d'être libéré. Mmh. C'est pas tellement pour perpétuer la dynastie.
Quelquefois, on parle de pondre un peu familièrement pour écrire.
Oui, là, je pense que c'est une coïncidence que vous relevez habilement, mais ce que j'avais dans l'image, parce que ce que j'essaie de faire, c'est de transmettre des images et de créer chez le lecteur, la lectrice, des images fortes. Là, c'est bien l'image de la ponte, de l'œuf que l'on doit dominer, que l'on doit fabriquer de telle sorte que, à l'éclosion, au lieu d'avoir un rejeton assassin, on ait un rejeton libérateur.
Comment échapper tout de même à ce climat de désastre qui se généralise, qui sévit un peu partout, d'une histoire à l'autre? Est-ce que c'est par la force de la nomination, par exemple, hein, où on est très surpris par les noms que vous donnez à tous vos personnages, qui sont des noms qu'on ne rencontre que dans vos livres, qui n'existent nulle part ailleurs?
Pas vraiment. Ce sont des noms d'ailleurs, mais effectivement assez
éloignés.
Voilà, oui.
Sol, Monacanthe, Aiglefine.
Là, etc. Il s'agit de noms de reines. Ce sont des reines, sirènes. Ce sont des sirènes. Elles portent des noms grotesques. Ce qui arrive rarement pour mes personnages, que je ne n'affuble pas de noms grotesques, mais de noms étranges. Là, il s'agit de noms grotesques. Et pourquoi? Parce que je mets assez rarement en scène des rois et des reines. C'est pas tellement mon monde, c'est pas mon monde de référence, et c'est pas du tout le monde de référence des voix prisonnières qui créent les livres en amont des histoires et qui sont adeptes d'une idéologie extrêmement libertaire, anarchisante, égalitariste. Là, le seul fait de créer des rois et de les mettre dans une fiction les oblige à les combattre, comme tout anarchiste combat toute reine et tout roi qu'il a en face de lui. Et par conséquent, une des manières de combattre dans le texte, c'est de rendre grotesque dès le nom le personnage royal. Balbutiards n'a pas un nom particulièrement non grotesque. Les reines de inventées par ces anarchistes, même si parfois elles sont des reines anarchistes, ne peuvent pas occuper leur fonction avec l'apparat qui sied à leur fonction. Donc il faut les rabaisser. Il faut dire dès le nom que l'on est anti-monarchiste. C'est ce que font les narrateurs lorsqu'ils inventent ces noms.
Balbutiards, c'est pas loin de balbutier.
Oui,
balbutier, c'est pas parler.
Alors, Bien sûr, Balbutière a ce nom paradoxal de lié à, au langage en échec, en défaite, mais en même temps, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Il pense et dit sa pensée à haute voix puisqu'il est seul et d'une façon assez tonitruante et majestueuse. Par conséquent, l'appeler balbutiard est diminuer la majesté de son discours.
Vous disiez que ces histoires sont étranges, Antoine Bolodine, mais est-ce qu'elles nous sont malgré tout familières? Ce sont nos animaux préférés.
Oui. Donc
peut-être qu'elles nous parlent de nous aussi.
Oui, bien entendu, mon but n'est absolument pas de me replier dans une description animale du monde. Bien entendu, comme dans les fables animalières et dans les contes mettant en scène des animaux, mon propos est de parler du destin humain. C'est pourquoi ces animaux sont nommés comme des animaux, mais ont des comportements qui sont des comportements humains au niveau individuel, mais également au niveau collectif, puisque lorsque sont mis en scène des moments d'histoire, eh bien l'histoire est évidemment une histoire humaine, l'histoire de révolution, de révolte. D'espoir et d'espoir brisé.
Nos animaux préférés, le livre d'Antoine Bolodine est publié aux éditions du Seuil. Angélique Thibault, Jean-Richard Dufour, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.